pour parler, on a que de la bouche.
Plein de bonheur et de musique sur 88.3.
Pour chanter, on a que de la bouche.
Dans le mix, c'est
que de la bouche.
Dans la street, c'est
que de la bouche.
Et ouais, que de la bouche sur 88.3.
Bonsoir à tous, il est 19h25, vous écoutez la Radio des Suds. Ce soir, nous allons vous parler de l'association IACA. Écoutez l'interview de Greenpeace, de Arlette Hamon, les jeunes de Aubervilliers et les jeunes de l'atelier Slam. Alors bonsoir Arlette, merci d'avoir bonsoir. Accepté notre invitation ce soir. Vous êtes venue ce soir pour parler d'une association, la Ligue
des droits de l'homme.
Voilà. Alors que pouvez-vous nous dire dessus?
Alors l'association la Ligue des droits de l'homme, c'est une association qui est ancienne, qui date de plus d'un siècle, puisqu'elle a été créée en 1898 à la suite de l'affaire Dreyfus. Et elle compte actuellement environ 7000 adhérents, et ce qui est peu, parce que ce n'est pas une association qui est très attractive, parce qu'on ne parle que de choses sérieuses, et bien sûr. Et qui, bon, les combats, c'est lutter contre l'intolérance, les discriminations, l'injustice, l'arbitraire. Et en ce moment, il y a vraiment de quoi faire dans tous ces domaines-là. Et sinon, bien évidemment, nous avons des valeurs, évidemment, de laïcité, de promouvoir la citoyenneté, la solidarité et bien sûr les libertés fondamentales.
D'accord. Et pourquoi avez-vous voulu être bénévole pour cette association?
Ah ben, c'est la même question que l'autre fois. Eh ben, tout simplement parce que je trouve que de vivre tout simplement, c'est vivre avec les autres et vivre. Et puis j'ai beaucoup de... Je trouve que c'est être citoyen que de s'impliquer dans la vie du pays.
D'accord. Et depuis combien de temps elle existe, cette association?
Ah, elle existe depuis 1898.
D'accord.
Et la Arles, elle a été refondée après la guerre, mais elle est assez ancienne aussi, la section de la Ligue des droits de l'homme d'Arles.
Alors, existe-t-il d'autres organismes qui défendent, comme vous, le droit de l'homme?
Oui, bien sûr, il y a plusieurs autres organisations. Droits de l'hommiste, comme dit Monsieur Sarkozy.
D'accord. Et que pouvez-vous me dire sur cette association, en particulier?
Eh bien, en ce moment, on est beaucoup mobilisés, bien sûr, pour toutes les lois sécuritaires xénophobes. Et bien sûr, depuis 5 ans, tout le monde le sait, c'est l'inflation législative dans ce domaine-là. Et on a publié des plaquettes, d'ailleurs, bilan de 5 années d'une législation xénophobe et une autre plaquette qui s'appelle bilan de 5 années d'une législation sécuritaire. Puisque au niveau des lois sécuritaires, je crois qu'on en est à la 11e en 5 ans, c'est pas mal. Hein. Mm-hmm. Et d'ailleurs, il y a l'Union syndicale des magistrats qu'on ne peut pas taxer comme un syndicat gauchiste de la magistrature qui avait demandé... il y a un an, l'arrêt de l'inflation législative, une loi enfin applicable par les magistrats et lisible par les citoyens. Donc ça prouve à quel point, en fait, ces lois servent à faire de la communication politique et à envoyer sur le pays une idéologie sécuritaire et une idéologie qui est apparemment rentrée dans les esprits, d'ailleurs.
D'accord. Et ça fait combien de temps que vous travaillez pour cette association?
Moi, personnellement, ça fait environ 8 ans. 8-9 ans, 8 ans que je suis adhérente vraiment.
D'accord. Et vous êtes combien de personnes dans cette association?
Sur Arles, nous sommes moins d'une vingtaine.
D'accord.
Mais nous sommes actifs pendant la campagne électorale. Nous avons distribué 5000 tracts. Nous sommes beaucoup impliqués dans la campagne électorale et dans d'autres domaines aussi.
Et combien d'organismes dans le monde, enfin dans la France y a-t-il?
Alors là, je ne peux pas vous répondre. Hein. Je n'ai pas...
D'accord. Et vous travaillez avec d'autres organismes?
Ben ici, oui, sur Arles, on nous est arrivé plusieurs fois de travailler avec d'autres associations.
D'accord. Et vous avez fait une interview déjà?
Oui, avec Alexandre et Stéphane, qui n'est pas là, hein. Il n'est pas là, Stéphane.
Et comment ça s'est passé?
Ah, comment ça s'est passé? Ben, j'étais en train de faire la sieste quand on m'a téléphoné et je me suis vite rhabillée. Enfin, j'ai enfilé une veste et voilà, et je suis venue un petit peu à Breu. Voilà.
D'accord. Eh ben, Rémi, tu as une question pour Arlette?
Ouais, peut-être une. Une qui me tracasse la tête. En fait, ça sert à quoi les prud'hommes? Ça sert à quoi
la Ligue des droits
réellement
de l'homme.
Réellement, ça
non,
sert à
moi
quoi?
Moi, c'est la Ligue des droits de l'homme, pas les prud'hommes. Hein.
Ouais, la Ligue des droits de l'homme, c'est une association en fait qui.
Mais c'est une association.
Qui défend.
C'est une association, voilà.
C'est genre
justement.
Des avocats quoi.
C'est une association qui défend les gens qui sont victimes de discrimination, injustice, de l'arbitraire, et on dénonce régulièrement.
C'est comme la halte,
on est vigilant et on est un contre-pouvoir, on se veut un contre-pouvoir politique et dénoncer tout ce qui ne va pas dans ce pays et voilà.
Je connais une autre fondation qui fait ça, moi, ça s'appelle la HALD. Je sais pas si vous connaissez.
La HALD, c'est la Haute Autorité de lutte contre la discrimination, voilà. Et pour l'égalité. Ouais.
Exact.
Et ça, c'est une instance. C'est une instance et souvent, on travaille avec la Ligue, travaille avec la HALD.
C'est
avec
à peu près
HALD.
Pareil que...
C'est non, c'est pas la même chose. Là, c'est une instance, la HALD, tandis que la Ligue des droits de l'homme, c'est une association. Une association qui est ancienne. Et... Tandis que là, ça a été créé, c'est une instance qui a été créée il y a quelques années.
D'accord.
Et par contre, vu que le nom s'appelle la Ligue des droits de l'homme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce nom-là? En quoi ça consiste?
En entier, ça s'appelle Ligue française de défense des droits de l'homme et du citoyen. Mais c'est justement ça. Hein.
D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message aux gens?
Mais le message que voudrais faire passer aux gens, mais c'est qu'actuellement, il faut être vigilant, il faut s'associer, se réunir. D'ailleurs, on fait appel, pourquoi pas, à des gens qui pourraient venir nous rejoindre, de façon à créer actuellement un contre-pouvoir. Et... Parce que c'est absolument nécessaire, puisqu'on est en face d'un président de la République qui a la concentration des pouvoirs. Et je crois qu'actuellement, c'est vraiment nécessaire de réfléchir et d'avoir... des actions citoyennes et de...
Et où se situe votre association?
Alors, nous sommes basés à la Maison de la Vie Associative et nous nous réunissons tous les premiers mercredis de chaque mois à partir de 17h30 jusqu'à 20h.
Et à quel numéro on pourrait s'adresser pour que les gens...
C'est Maison de la Vie Associative.
D'accord.
Boulevard des Lys. Et après, ou alors dans le fascicule de la Maison de la Vie Associative... Il y a de toute façon nos coordonnées avec les adresses, internet, numéro de téléphone.
D'accord.
Alors, Arlette, peut-être qu'on peut rentrer dans quelques-unes là, des dernières lois qui sont passées, et notamment la loi des peines planchers, donc, qui a été passée là, en vitesse là, pendant par le tout nouveau
loi
gouvernement.
Loi sur la récidive.
Voilà. Mmh. Alors, tu peux nous en donner deux mots, hein, et un peu nous expliquer le
danger qu'elle représente. Alors, la loi sur
la
récidive, elle est passée effectivement au Sénat pour l'instant. Eh bien, ce que ça représente, c'est ça veut dire qu'on nie complètement l'individualisation de la peine, puisque les gens qui vont être condamnés une deuxième fois ou une troisième fois, ils vont avoir une peine minimum et automatique. Donc, ça veut dire que c'est carrément la justice même qui est niée. Et quant aux jeunes, eh bien, ils vont avoir le même traitement. Et en plus de ça... jusqu'à présent, on avait coutume de, et c'était quand même aussi dans l'ordonnance de 45, les peines à partir entre 16 et 18 ans, les peines étaient divisées par deux. Or là, ça ne sera plus le cas. Alors qu'on sait que la prison, c'est une fabrique de récidives, puisque les prisons actuellement, on le sait depuis longtemps, c'est une honte pour la République. Il y a une dame qui s'appelle Madame Levasseur, qui a fait un livre en 2000. Et qui s'appelle médecin chef à la santé, je crois, quelque chose comme ça. Et puis il y a eu des rapports qui ont été faits. Le dernier, c'est Monsieur Gilles Robles, qui est le commissaire européen aux droits de l'homme, qui est venu en 2005 et qui a fait le rapport a été publié en 2006. Et il a dit que l'état des prisons en France était absolument scandaleux et qu'il n'avait jamais vu ça ailleurs qu'en Moldavie. Il n'avait jamais vu ça. Tellement c'était il a une surpopulation carcérale qui est vraiment complètement... qui ne va pas du tout pour un pays démocratique comme la France, avec, en particulier dans les prisons, les maisons d'arrêt. où se trouvent la plupart des prisonniers, puisqu'il y a tous ceux qui sont inconditionnels et tous ceux qui ont des peines de moins d'un an, où il ne peut rien se passer, aucun travail, il n'y a rien. Et il y a une surpopulation honteuse avec des détenus qui sont à 3 par cellule, dans une cellule de 9 mètres carrés qui est conçue pour un seul détenu.
D'accord, Alert. Bah, déjà, merci pour toutes ces réponses. Comme ça, au moins, les gens qui ne savent pas sauront ce soir. Et si tu le veux bien, nous allons maintenant écouter l'interview de Alexandre et Stéphane qui ont fait sur Greenpeace. C'est sur l'écologie.
Mmh. Qui êtes-vous et que faites-vous ?
Bonjour, ben moi je suis Amel, coordinatrice de programme chez Greenpeace France. Voilà.
Accompagnée d'Alain, responsable d'équipe de Greenpeace France aussi, travaille avec Amel.
Qu'est-ce que Greenpeace ?
Greenpeace est une association internationale de protection de l'environnement. Donc on travaille sur des enjeux planétaires.
Depuis combien de temps Greenpeace existe ?
Ça fait 36 ans qu'on existe, on a été créé par des jeunes qui ont voulu s'interposer contre les essais nucléaires américains en Alaska. Donc à partir de ce moment-là, un mouvement est né de protection de l'environnement et à partir de la lutte contre des intérêts financiers, économiques uniquement.
Alors justement, j'ai une question, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet environnement justement ?
Alors, oui, je peux te parler de la protection des océans, donc tout ce qui est faune et flore marine. Donc, à l'époque, on avait mis en place un moratoire contre la chasse à la baleine. Aujourd'hui, c'est une protection du thon rouge qu'il faut absolument mettre en place parce qu'il est en voie d'extinction, que d'ici 2-3 ans, il n'y aura plus de thon rouge en Méditerranée à cause du dépassement de quotas de pêche. Par rapport à la déforestation en Amazonie et dans la forêt du Congo. Donc c'est très important de se mobiliser aujourd'hui parce que c'est quand même le poumon de la planète et que si ces forêts-là viennent à disparaître, on en ressentira les effets partout dans le monde avec les bouleversements climatiques et la disparition de toute la biodiversité qui est dans ces forêts-là.
Il faut savoir d'ailleurs qu'il ne reste que 20% de forêts primaires à travers le monde. Donc il est vraiment impératif de les protéger. Voilà. Et justement, c'est ce qu'on a fait depuis plusieurs années. On a réussi déjà à protéger plusieurs milliers, voire millions d'hectares de forêts, que ce soit amazoniennes, comme ma collègue l'a dit, ou dans la République démocratique du Congo. Et il est vraiment vital qu'en fait
on s'y mette tous. La campagne actuelle sur les OGM qui concerne vraiment tous les Français, puisqu'on sait que les Français ne sont pas favorables aux OGM. Malheureusement, en France, on risque d'en avoir quand même quelques hectares, puisqu'il est prévu 50 000 hectares d'ici à la fin de l'année, alors que les autres pays européens ont mis en place des moratoires pour protéger en fait contre la dissémination des OGM en milieu ouvert.
Je voulais juste ajouter une chose sur la déforestation. J'invite d'ailleurs tout le monde à se renseigner lorsqu'il fait des achats concernant des chaises, des tables, les bois, etc. Il y a un label qui a été créé justement, qui s'appelle le label FSC. C'est un label de forêt éco-gérée. Donc il est très important de voir aussi justement, parce que c'est bien beau de dire qu'on protège l'environnement, mais il faut que ça se protège depuis le début jusqu'à la fin de la chaîne, c'est-à-dire la consommation. La consommation, on ne peut le savoir qu'en demandant là où on achète ses fournitures, enfin son bois, d'où il vient. Voilà, il faut savoir d'où vient la provenance de ce qu'on achète. Parce que 80% des importations en France sont quand même du bois tropical et c'est illégal.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire que signifie FSC ?
Forward Forest Stewardship, excusez-moi pour l'accent, Council. Voilà ce qui veut dire en fait.
C'est le label de bonne gestion forestière en fait qui met en place une charte par rapport aux forêts, donc pas de coupe à blanc, sur le principe du commerce équitable et on replante automatiquement dès qu'on a enlevé un arbre. Voilà, ça c'est un label qui permet de protéger les 20% de forêts qui nous restent.
Et est-ce que vous travaillez avec le commerce équitable ?
Oui, bien sûr. Donc, comme je te disais, sur les forêts primaires, avec les Indiens ou avec les Africains, on travaille aussi avec les populations locales, parce que le but n'est pas d'enlever le travail de ces personnes-là, mais bien de les aider. Ça s'appelle le développement durable aussi, de les aider à gérer... de travailler avec ce qu'ils ont et qu'ils puissent en vivre pendant encore très longtemps. Tout comme les pêcheurs, hein. Si dans 2-3 ans il n'y a plus de thon rouge, il n'y aura plus de pêcheurs non plus. Donc on leur propose, nous, de faire attention à ce qu'il y a maintenant pour qu'ils puissent travailler beaucoup plus longtemps.
Exactement. On n'a jamais été contre les pêcheurs ou quoi que ce soit. Même d'ailleurs, on intervient aussi au niveau de la protection de la biodiversité marine aux alentours de l'Afrique de l'Ouest. Parce que bon, voilà, les pêcheurs de Nouvelle-Guinée, ils se retrouvent en concurrence directe avec des gros bateaux qui ont des énormes filets et qui pêchent en un mois ce qu'ils récolteraient en un jour, ce qu'ils récolteraient en un mois. Donc voilà... Ce serait bien de regarder ce côté global aussi.
Alors, dans combien de pays êtes-vous représenté ?
Dans 40 pays. Et que ce soit la Chine, la Russie, les États-Unis, le Canada, la France. Il n'y a qu'en Afrique où on n'est pas présent pour l'instant. On va essayer d'ouvrir un bureau pour l'année prochaine.
Et on a 26 bureaux à travers la planète.
Combien compte-t-elle d'adhérents ?
Alors, en France, on est 110 000 adhérents. Dans le monde, on est 3 millions d'adhérents. Et il faut savoir que ça peut paraître beaucoup, 110 000 adhérents, mais c'est rien sur 60 millions de Français. Voilà.
Et quel est le rôle des adhérents dans l'association Greenpeace ?
Le rôle des adhérents, déjà, c'est de participer à ce contre-pouvoir-là. Donc en étant le plus nombreux possible, on se fera entendre du gouvernement ou des entreprises qui sont les plus polluantes. Le rôle d'un adhérent, c'est aussi de participer dans les groupes locaux. Donc un groupe local, c'est des bénévoles qui se réunissent pour voir ce qu'ils peuvent faire concrètement à un niveau plus local. Donc ça peut être des actions de sensibilisation sur tenir des stands dans des salons, ça peut être des actions de manifestation quand on n'est pas d'accord avec les collectivités territoriales. Voilà, chaque personne peut agir déjà au jour le jour, mais ça tout le monde doit le faire. Ce qui est du tri sélectif ou de d'économie d'énergie ou ne pas prendre sa voiture tout seul ou tout ça, tout le monde peut le faire. Après, participer à un groupe local, c'est donner un peu plus de son temps pour aller justement sensibiliser ceux qui ne le sont pas déjà.
Il faut savoir que l'adhérent garantit aussi notre indépendance financière puisqu'on refuse les subventions de l'État et celles des entreprises.
Merci.
Merci beaucoup.
Salut Steph et Alex, alors comment ça va aujourd'hui ?
Très très bien, et vous Mylène ?
Ça va, ça va. Alors là, nous avons entendu l'interview que vous avez fait sur Greenpeace. Ouais. Alors pourquoi vous avez choisi cette interview ?
Et on a choisi cette interview parce que dans la rue, quand on distribuait les programmes, on en a donné à des bénévoles de Greenpeace. Mm-hmm. Et voilà. Et après, du coup, je voulais faire une petite interview. Je me suis dit pourquoi pas sur Greenpeace. Mm-hmm. Comme en plus j'aime bien l'environnement, la nature et tout.
D'accord.
J'ai pas envie que ça disparaisse. Et du coup après avec Steph j'en lui ai parlé et il était d'accord. Du coup on allait faire cette interview.
Ok, et toi Steph ?
Bah, c'est en distribuant aussi les programmes donc avec Alexandre. Et c'est à ce moment-là qu'on on nous a proposé justement de faire une interview sur Greenpeace. Et donc c'est à partir de là qu'on a lancé ce projet.
D'accord. Est-ce que les questions que vous avez posées, est-ce que les réponses ont été ce que vous attendiez ?
Ben oui, tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça.
Sur quelques-unes, et des fois il y en a d'autres, quand, petit à petit, quand ils expliquaient, des fois on avait d'autres questions à poser, et on ne s'attendait pas du tout à des réponses comme ça. Voilà.
D'accord. Et est-ce que ça vous a plu de faire cette interview ?
Tout à fait.
Absolument.
Et cette interview, ça parle de quoi en général ?
Alors, cette interview, donc Greenpeace, ça parle justement de l'environnement. Mm-hmm. Donc, quand je dis environnement, c'est tout ce qui est forêt et bien sûr, c'est les océans. Voilà.
D'accord. Et en fait, là, vous avez voulu faire passer un message aux gens ce soir.
Oui, voilà. Le message, c'était un petit peu d'essayer d'adhérer à Greenpeace, à l'organisation Greenpeace, mm-hmm. qu'on peut retrouver sur la place de la mairie et à la rue de la République. Mm-hmm. Et un petit peu leur expliquer qu'on a besoin de la planète, qu'il faut la préserver. Voilà.
D'accord. Et en fait, moi, c'est vrai que à Greenpeace, je les ai vus tous les jours sur la place de la mairie.
Nous aussi avec Steph.
D'accord. Et en fait, à chaque fois, ils nous interpellent pour poser des questions, pour être adhérents. Et en fait, ça se passe comment ?
pour être adhérent? Ça se passe comment?
Eh bien alors, si on veut être adhérent, on va voir, un bénévole de Greenpeace. Voilà, donc il nous pose 2-3 questions. Il nous demande notre adresse, numéro de téléphone, un petit peu tous les renseignements possibles. Voilà. Et après, il nous pose 2-3 questions et après, du coup, on est adhérent. Voilà.
Et toi, Rémi, t'as une question? Enfin, tu voulais dire quelque chose?
En fait, je vais te dire exactement comment ça se passe parce que moi, je suis adhérent à Greenpeace.
Ah, bah, première nouvelle, dis-moi.
Ah, il faut préserver l'environnement, c'est vital pour tout le monde.
Pour la planète surtout, pour pas qu'elle disparaisse. Voilà,
bah. Pour tout le monde.
Pour le monde, bah ouais.
Pour nous et pour la planète en elle-même, parce que en fait, Greenpeace vous expliquera après 2 ou 3 mois d'attente que la planète, il y a le réchauffement de la planète, il y a les trous dans la couche d'ozone, il y a les blocs de glace qui fondent dans les glaciers au pôle nord ou au pôle sud. Et en fait, ça demande pas beaucoup. Hein. Ils demandent vraiment. En fait, c'est selon. C'est vous qui voyez, en fait. C'est vous qui donnez ce que vous avez envie de donner. Regardez-moi, moi, personnellement, je donne 2-3 euros. Parce que je peux pas me permettre de me faire retirer 500 euros sur mon compte bancaire tous les mois. Pour Greenpeace. Mais j'aurais pu faire plus, j'aurais fait plus. Et une fois tous les 3 mois, je leur envoie un chèque de 15 euros, ils sont contents, quoi.
D'accord. Et toi, Guillaume, est-ce que tu connais Greenpeace?
Je connais Greenpeace.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire quelque chose dessus?
Bah écoute, je trouve ça très bien que des gens se prennent en main pour défendre ce qu'ils considèrent comme étant des choses importantes. Et la préservation des ressources naturelles me paraît quelque chose d'assez important.
C'est vrai que passé un moment, on entendait énormément à la télé, la planète se réchauffe, économiser énormément de lumière, faire attention de ne pas laisser en veille une télévision, par exemple, plein de trucs comme ça.
Et préférer la douche au bain.
Voilà. Et c'est vrai que ce message, en ce moment, il est très, très, très passé à la télé, quoi.
Bah, si tout le monde fait un petit effort, effectivement, le résultat est très important. Il faut que chacun prenne conscience que des petits gestes, vraiment changer quelques habitudes dans sa vie, peut vraiment faire un effet très positif sur nos écosystèmes. Et moi qui suis citadin, qui vis à Paris, je peux t'assurer que la qualité de l'air à Paris, on a chaque soir des annonces pour nous dire qu'on a respiré un air de qualité plutôt moyen. Et c'est quand même assez extraordinaire.
Et entre Paris et Arles, quelle est la différence d'air, de température? Est-ce qu'il y a...
Bah écoute, je sais que là, aujourd'hui à Paris, il doit faire à peu près 12 degrés, il pleut, le temps est très très gris. Il faut savoir que sur Paris, grâce à nos aéroports, on a une très forte pollution, notamment à l'ozone, et que les gens qui sont asthmatiques peuvent même subir la mauvaise qualité de l'air et donc avoir des difficultés respiratoires, notamment les personnes qui sont un petit peu âgées.
D'accord. Et toi, Rémi, t'as une...
En fait, c'est pour dire aussi que les sacs plastiques, il faut pas les jeter. Parce que les sacs plastiques, maintenant, ça pollue. Ça pollue aussi comme tout autre, comme tout banal, une canette. Une canette, une vulgaire canette en métal, ça se garde, ça se met dans un sac et ça s'emmène à... en fait, ça se pose dans la rue, c'est comme les briques de lait, les journaux, tout ça. Il y a les bouteilles en plastique, il y a plein de choses qui peuvent faire que l'environnement soit moins pollué, on va dire, parce que ça se recycle, en fait. C'est un moyen pour la planète, c'est un moyen de moins la polluer. Pas version pollution normale, pas pollution comme pollution au gasoil ou n'importe quoi. C'est une pollution, c'est des poubelles, quoi. C'est si on jette une canette enfin ou un journal ou une brique de lait à la poubelle, ça fait une brique de lait en moins à reconditionner en une autre brique de lait.
Tu veux dire qu'il faut faire du recyclage, c'est
voilà,
ça?
Voilà, il faut, ouais. faut savoir recycler aussi parce que c'est bon pour l'environnement aussi. Mmh.
Mais est-ce qu'il faut pas aller plus loin et consommer moins, quoi?
Et consommer moins aussi.
Et moins, voilà.
Moins consommer.
Et changer des modes de vie qui sont plus possibles ici en Occident, dans le Nord, hein, parce qu'on est en train de piller quand même les ressources du Sud pour maintenir nos trains de vie. Donc est-ce que c'est plus, est-ce qu'il faut pas aller au-delà de...
Il faut aller au-delà, oui.
D'éteindre sa télévision. Peut-être qu'il faut jeter sa télévision, plus acheter la télévision. Déjà, ça serait une bonne chose parce qu'on sait qu'en plus ils racontent souvent n'importe quoi. Enfin, ce qui les intéresse, ouais. Donc ils poussent à consommer. Donc peut-être on pourrait commencer par éteindre définitivement les télévisions. Donc on consommerait moins par la même occasion. Et puis, du coup, réfléchir comme ça à tous les niveaux à une nouvelle façon d'envisager la suite, quoi.
Bah moi, l'électricité, j'ai pas d'électricité chez moi, je me chauffe à la bougie.
Donc, non, mais bon, sans revenir après, à l'époque des cavernes, c'est pas voilà, ça, mais c'est imaginer une décroissance. Hein, c'est un terme là qu'on commence à entendre de plus en plus, c'est une décroissance.
Tout à fait, c'est une décroissance.
Pense que voilà, il faut non plus, il faut faire attention à pas se satisfaire de quelques mesurettes qui seraient recycler, continuer à consommer de plus en plus, mais en recyclant, parce que ça sera pas la solution à long terme. Donc c'est peut-être, un sparadrap sur une jambe de bois. Mais je pense qu'il va falloir assez rapidement réenvisager nos façons de vivre, quoi, ici, en tout cas dans le Nord.
Je vois que Brice et Bruce est très déchaîné derrière leur platine pour gérer un peu la radio. Donc je pense que Stéphane aurait peut-être une suggestion à faire.
Tout à fait. Donc je vais juste revenir à ce qu'avait dit Guillaume tout à l'heure. Alors justement, j'ai une question à vous poser parce que tout à l'heure vous avez parlé de Paris, donc la couche d'ozone et toute la pollution. Pour ceux qui sont asthmatiques, quelles sont les conséquences les plus graves qu'on pourra avoir ?
Eh bien, notamment, en tout cas des hospitalisations. Et moi, je suis un petit peu d'accord avec Antoine. Je trouve qu'on a des comportements aujourd'hui où on fait du suremballage inutile avec les portions individuelles. Alors, on se retrouve avec plein de déchets complètement inutiles. Il y a aussi toute une façon de penser la publicité par voie de tract qui est complètement ridicule puisque finalement personne ne les lit ces tracts. Ils finissent généralement dans le caniveau et encombrent nos rues. Donc oui, je crois qu'il faut qu'on se mette maintenant à changer nos habitudes.
Okay. Pour aller plus loin, à changer de société, quoi. Hein.
Voilà.
Voilà, une société libérale de manière qui est faite pour faire consommer, pour faire du profit à tout prix. Et le profit, ça se fait avec des biens de consommation à vendre, etc. Donc je pense que c'est tout ça qu'il faut repenser. Atelier.
Tout à fait.
Alors, puisqu'on y est, donc la dernière fois qu'on a interrogé vos camarades Greenpeace, ils nous ont parlé justement de ce qui se passait en mer, donc pour le temps, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ?
Bah écoute, je crois que longtemps on a considéré que la mer était très très grande et que ses ressources étaient totalement inépuisables. Et une fois encore, je crois qu'on s'est lamentablement trompé. Et on arrive à des déséquilibres des écosystèmes qui font qu'on va difficilement pouvoir faire marche arrière aujourd'hui. Et c'est attristant, surtout qu'on sait que la mer est quand même... on ne connaît pas tout à fait la quantité de ressources, la quantité d'espèces qui peuplent cet écosystème. Et que la mer, déjà, régule thermiquement la terre. Et que là, on est en train d'un petit peu de briser les équilibres et on risque de le payer très très cher.
Moi, je sais que quand j'avais fait une interview sur qu'est-ce que le slam, et les gens, en fait, ils ont compris l'islam. Et en fait, il y a une dame au parc, elle nous a énormément parlé, et au bout d'un moment, elle a dit, mais de toute façon, personne ne fait attention au monde, quoi, parce que le monde est tellement beau, c'est grâce à cette terre qu'on est là maintenant, qu'on peut respirer, qu'on peut faire énormément de choses avec. Et c'est vrai qu'elle m'a fait un gros, gros débat sur ça, et franchement, ça vaut vraiment le coup d'écouter. Mais malheureusement, on ne l'a pas. Mais c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'elle disait que Arles, pour les visiteurs, il avait juste la surface, mais dans les petites rues, c'était vraiment pourri. Donc voilà.
Ah, justement, Guillaume, parce que. Donc en même temps, on nous a parlé un peu des pêcheurs, le coup qu'ils sont en train de faire en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement là-dessus ?
Écoute, je connais pas tout à fait les rouages de la pêche, mais je crois que encore une fois, on a voulu aller à toujours plus gros, toujours plus important, et donc la pêche traditionnelle se perd. Et aujourd'hui, on va dans des espèces de, on a des chalutiers qui peuvent effectivement ramener des tonnes de poissons, alors que bon, c'est pas très intéressant.
En fait, c'est pour faire du profit, quoi. Et le profit, c'est pas bon pour la planète.
Et ben justement, nous allons. Écoutez l'interview que les jeunes de la radio ont fait.
Robert la raconte à Arles au festival du Sud. Robert la raconte au festival des Sud. Bonjour. Je m'appelle Saliou, vous êtes bien sûr à la Radio des Sud, sur Robert se la raconte. Aujourd'hui, le reportage serait sur la percu à la Muleta. Pour mieux vous en parler, je vais passer la radio à Rama.
Et oui, Saliou, ce matin, nous sommes allés voir la télé percussion. J'ai croisé Henri, voici leur interview.
Comment vous appelez-vous ?
Henri.
Et vous pouvez nous dire là où on est où ?
Là, nous sommes dans le local de répétition d'un groupe de percussion qui s'appelle Viagem Samba à Arles, dans le centre-ville.
Pourquoi on est là ?
Alors, on participe à un stage de percussion mandingue avec Omar et Laurent.
Ça fait combien de temps que vous faites de la percussion ?
Alors moi, personnellement, ça fait, on va dire sérieusement, 5 ans.
Et les autres, les petits ?
Donc les jeunes d'Aubervilliers que j'accompagne avec Kaba et Laurent et Didier, pardon, ça dépend. Ce sont des jeunes percussionnistes, on va dire ça fait un an qu'ils font de la percussion.
Ils s'en sortent bien ?
Ouais, très bien, très bien. Ils s'accrochent, je les trouve super courageux, parce qu'on est là, on fait beaucoup de choses. Comme tu sais, on assiste au concert le soir, on se couche assez tard. Et donc ils sont toujours prêts le matin pour répéter depuis, donc on a commencé hier. Et ils s'accrochent, c'est difficile, ils s'accrochent, il faut mémoriser les morceaux. Ils font vraiment, je suis vraiment super content d'eux, parce qu'ils sont courageux.
Et ce qui est pareil, le concert, vous allez jouer samedi ?
Oui, 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 on va jouer sur la place de la République.
Vers quelle heure ?
Vers, ça sera en fin de matinée, voilà, vers 11h je pense.
Maintenant, je passe la main à André qui va interviewer Laurent, le maître du stage.
Oui, salut. J'ai interviewé Laurent qui m'a parlé de l'atelier percussion. C'était très intéressant.
Bonjour.
On est où là ?
On est où là ? On est à Arles pendant le Festival des Sud pour le stage de Balafon, c'est ça ? Musique mandingue ?
Et vous appelez comment ?
Moi, je m'appelle Laurent Rigaud.
Vous avez fait un concert l'autre jour à la place Van Gogh ?
Ouais, tout à fait.
Et ça vous fait plaisir d'enseigner votre musique aux autres enfants ?
Vraiment très plaisir. C'est un premier stage de balafon d'ensemble mandingue. Ça se passe très bien. Il y a plein de balafons. Tout le monde est content. On découvre cet instrument super. C'est génial, vraiment.
Vous pouvez nous expliquer comment on fait pour voir comment on sait le balafon ? Ça sert à quoi ?
Comment on enseigne le balafon ? Comment t'expliquer ? Je ne vais pas te l'expliquer comme ça. Disons qu'on donne des accompagnements assez simples parce que le balafon est un instrument assez difficile quand même. Donc on essaie de donner des accompagnements assez simples, de donner des repères aux élèves, de leur donner des repères de rythme aussi pour qu'on puisse jouer ensemble dans ce groupe.
Merci, au revoir.
Eh ben, merci Audrey de la Côte d'Ivoire. Tu me fais un petit coupé décalé avant de...
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous appelez-vous ?
Je m'appelle Kienou Omar.
Vous faites du balafon ici ?
Non, moi je suis, disons, le prof de djembé.
À part ça, ça fait combien d'années que vous en faites ?
Le djembé ? Mais moi, depuis tout petit en fait, parce que je fais partie d'une grande famille, des griots en Afrique, au Burkina Faso quoi. Et c'est très connu en fait. Tu arrives même à Ouaga, tu vois, tout de suite, tu veux aller chez nous, on te l'indique quoi. C'est pas compliqué.
Et là, vous enseignez aux petits ?
Oui, j'enseigne aux petits, aux grands aussi. Mais là, je vais avec eux doucement parce que je suis du nouveau professionnel, tu vois. Et c'est très difficile de jouer avec des petits, tu vois. Mais là, je vais avec eux doucement et tout se passe bien, quoi, tranquille.
Le djembé, il est comment l'instrument ?
Le djembé, disons, c'est un instrument, c'est un bois. Parce qu'il y a différents bois, disons, il y a les qualités. Il y a la première qualité qu'on appelle l'inké, la deuxième c'est Yoroko, Et troisième, c'est Balayiri. Balayiri, il y a Siiri, il y a Wuroiri, il y a beaucoup de bois en Afrique, tu vois. Et la meilleure qualité, c'est le Lenke.
C'est ça que vous utilisez ?
Ouais, c'est ça que j'utilise. Et c'est un bois, après, il faut une bonne peau. Il faut de la peau de chèvre ou de l'antilope. Et aussi, il faut des fils et des fers. Donc, c'est tout ça qui constitue, en fait, le djembé. Le fil, le fer, la peau et le bois.
C'est ça vous plaît ?
Ouais, c'est clair. Moi, c'est ma vie, pour te dire. Peut-être d'autres, ils le font pour le plaisir, tu vois, ou voilà, pour s'amuser. Mais moi, c'est ma vie. Ouais, je vis de ça depuis tout petit, mes parents, mes frères, toute la famille, quoi.
Donc c'est un truc de génération en génération.
Voilà. C'est un truc de génération en fait, en génération.
Et vous allez animer des fêtes ?
Oui, les fêtes traditionnelles, hein. Les mariages, oui, les baptêmes, les cérémonies, même les funérailles, tu vois, on anime. On fait aussi des concerts, parce que moi je suis venu avec un groupe pour tourner. Oui, et à l'occasion, voilà, on nous a invités ici pour donner des stages de danse et des percussions. Et en même temps aussi, on va faire des animations. Oui.
C'est la première fois que vous venez à Arles ?
Oui, c'est la première fois. Et oui, ça me fait beaucoup plaisir. Et
vous avez déjà participé aux autres concerts des autres jours ?
Bon, j'ai vu seulement deux concerts, avant-hier et hier. Oui. Voilà.
Et vous avez aimé ?
Oui, super.
Ouais. D'accord, ben merci beaucoup, au revoir.
Ouais, merci.
Alors vous êtes toujours à la Radio du Sud et je passe la main à Laetitia qui ont écrit un slam avec Diara et Audrey.
Alors merci Saliou, oui c'est vrai, aujourd'hui on va parler un peu de slam et de rap parce que nous les jeunes de Bervilliers, on a fait un petit rap pour la Radio des Suds. Enfin c'est pas vraiment pour la Radio des Suds, c'est pour représenter Aubervilliers et on va vous le faire écouter dans quelques instants. Ça parle d'Aubervilliers, des filles et c'est dédicacé aux garçons. On clash un peu contre eux on va dire. Donc je vais vous faire écouter, vas-y.
On est des meufs de cité, on vient d'Aubervilliers, on vient représenter, nos meufs sont un peu blessés. Vous voulez nous clasher parce qu'on vient débuter.
Vous allez nous niquer, on est des gueules enchaînées et on va vous éliminer. Je m'appelle Laetitia, je viens du 9-3, tu veux me serrer, c'est pas la peine d'essayer, car tu vas te faire bâcher. Tu crois que t'es trop fort, mais moi je suis hardcore, je bats tous tes records. Tu fais le cum qui s'est rappé, t'arrêtes pas de
bégayer. Ouais, ouais, je m'appelle Diara, je viens du 9-3, mon 4-3 à moi. Tu veux me tester, le mec t'es cinglé. T'inquiète, je vais soigner. Mon rap, c'est de l'or. Le tien, c'est du chlore. T'as une chaîne, tu crois c'est de l'art, mais non, c'est du toc. Vas-y, Audrey.
Okay, ouais, ok. Moi, c'est Audrey. Je viens du 9-3. Gaston Carré. Aubervilliers, je suis une meuf OP. Je crois que tu peux me juger.
T'es blessé.
Tu te sens gros, tu te sens fort. Mais non, t'as pas de corps. C'est, tu te crois fort. T'enlèves ton t-shirt, qu'à moi à dire Burke.
Burke.
C'est pour les garçons, dédicace.
Aubervilliers.
Pour finir, je vais passer la main à Diara qui va nous parler des participants.
Tout d'abord, bonjour. Ce matin, nous sommes allés voir les jeunes de la percussion. Maintenant, nous allons écouter leurs impressions. Bonjour.
Bonjour.
Comment vous appelez-vous ?
Catherine.
Vous pouvez nous dire où on est là ?
Nous sommes à Arles, au sud d'Arles, et je fais un stage de balafon.
Et c'est quoi le balafon ?
Balafon, c'est un instrument africain de percussion. Voilà, et il y a des baguettes, on tape dessus et on essaye de jouer en groupe. Super.
D'accord, c'est la première fois ?
Oui.
Ça vous plaît ?
Beaucoup.
D'accord, et vous avez quelque chose à ajouter ?
Ben oui, ça complète un peu. Moi, j'avais fait du djembé et là, je complète le fait de jouer en groupe. C'est très, très bien.
Mon prénom, c'est Élise.
Élise, vous faites quoi, là ?
Là, je suis en train de faire un stage de balafon avec Laurent Rigaud et tout un groupe. Voilà, c'est ouvert aux débutants et je suis débutante.
Et on est où, là ?
Là, on se trouve dans le local de Viagem Samba, à côté de la Muleta. C'est là que se passe le stage de balafon.
C'est la première fois que vous en faites ou vous en avez déjà fait du balafon ?
Non, j'en ai jamais fait. Je suis débutante.
Ça vous plaît ?
Beaucoup. C'est un petit peu difficile, mais ça vient quand même, ça me plaît beaucoup.
Et c'est quoi comme instrument ? Il est comment ? Parce qu'on dit tout le temps balafon, mais je comprends pas.
Bah, le balafon, c'est un instrument qui vient d'Afrique, fait avec des lattes de bois, des calebasses, c'est un peu le xylophone africain. Voilà, on m'a dit qu'il existe depuis le 13e siècle en Afrique. Et c'est merveilleux comme instrument. On en trouve, je pense, sous toutes ses formes, en fait. Moi, j'ai connu un balafon fait avec des troncs de bananiers frais pour les cérémonies de funérailles au Cameroun, par exemple.
Au revoir, rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Auberge la raconte au Festival des Sites.
Alors voilà, c'était les jeunes de l'atelier radio d'Aubervilliers. Alors ce soir, malheureusement, ils ne sont pas là, mais on a le représentant Guillaume qui est là. Alors, comment se passent les ateliers avec eux ?
Eh bien écoute, tous les matins, on se retrouve au QG du festival, donc rue du Cloître. On assiste au petit déjeuner avec Benjamin Minimum. Là, on essaye de voir ce qui va nous intéresser dans la journée. On prend nos micros, on prend nos enregistreurs. Et hop, sur le chemin, on se dit, bon bah sur quel angle on va un petit peu l'attaquer, le sujet. On répartit les rôles. Donc il y en a qui vont s'intéresser plutôt aux participants, d'autres plutôt à sur le coup de l'atelier, là, plutôt à ceux qui le mènent. Et puis après, chacun fait des petites voix pour qu'on ait un sujet complet avec un bonjour et un au revoir.
D'accord. Et ben ce soir, au Théâtre Antique, il y a Abdel Malik à 21h30, à ne pas louper. Et de toute façon, demain, on se retrouve à la même heure. Et au rendez-vous aussi à 10h pour les petits déjeuners orientaux animés par Benjamin.
Tu as oublié de dire qu'au Théâtre Antique, il y avait aussi les boucaques.
Ah oui, les boucaques. J'ai oublié, désolé. Merci de me l'avoir prévenu. Et nous allons écouter leur album.
باش نقولك كيفاش راني يما انا نكتب عليك والحجم رق كيف السمير والموزيك قدايم المزير المكتوب رايح ويدين قول ودا ودا كل يوم نحرم عليك قول ودا ودا كل يوم نحرم عليك قول ودا ودا عمري ما ننسى ما تخافش علينا واللي كيروح غيب شوية الماما ما تخافش علينا الغود بارك إن شاء الله واللي كيلعب في سليمة غادي تشوفوا على الدنيا قول ولا ولا كل يوم نحمم عليك قول ولا ولا كل يوم نعاضر عليك عمري ما ننساك قول ولا ولا قلبي يحوس عليك ولي
Et surtout, après le concert de Ahmed Abdel Malik ce soir au Théâtre Antique, il y aura... Et les boucaques aussi. Il y aura la Moleta à 23h, n'est-ce pas Stéphane?
Tout à fait.
Alors, tu vas nous dire un peu les trois dernières comptes rendus de la Moleta des acteurs.
Alors, il faut savoir que quand même, les acteurs Bodega, c'est super. Donc on a, c'est même pas un concert, c'est une boîte de nuit. C'est vraiment une boîte de nuit, c'est un DJ. Et donc on appelle ça ces after pour G-Fête parce que c'est que des musiques camarguaises qui passent. Mm-hmm. C'est ça qu'il faudrait savoir.
D'accord. Alors Rémi, toi tu dis non, pourquoi?
Non, parce que les after Bodega, en fait, je vais t'expliquer exactement ce que c'est. Parce que tu n'es pas arlésien, tu peux pas tout savoir non plus. Pour un vrai arlésien, la Bodega La Muleta, c'est la pure boîte de nuit quand il y a la feria d'Arles. Il y a deux ferias à Arles, une au mois d'avril et une au mois de septembre. Et pendant les deux ferias, c'est du pur gavage. Le DJ, il se donne à fond. Mais pendant les Suds, c'est des concerts. Deux ou trois concerts, c'est-à-dire un tous les deux soirs, normalement. Et les after Bodega, c'est jusqu'à normalement 4h du matin. Donc lundi, on a eu droit à nos jusqu'à 4h du matin. Seulement à partir de mardi, on a eu droit jusqu'à 2h du matin parce que il y a eu des plaintes qui ont été posées au commissariat de police.
Ah d'accord.
Par le voisinage. Mm-hmm. Donc comme le voisinage s'est plaint du bruit, on est obligé de fermer la bodega. En fait, le son se coupe à partir de 2h et on peut rester jusqu'à la bodega jusqu'à aller 2h30, 3h moins le quart.
D'accord. Et toi, Stéphane?
Alors, juste reprendre ce qu'il a dit. Déjà, c'est même pas mardi, c'était hier. Parce que mardi, on est quand même resté jusqu'à 4h du matin aussi. Mm-hmm. C'est ça qu'il faut préciser.
D'accord.
C'était hier, justement, qu'il y a eu un problème. Mm-hmm. Donc, on a pu se renseigner. Et c'est à partir de là qu'ils nous ont expliqué ce qui s'est réellement passé.
D'accord.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient perdu le papier du préfet. Soi-disant, ils l'auraient perdu. Donc, ça fait qu'à partir de là, ils n'avaient plus l'autorisation d'ouvrir la boîte jusqu'à 4h du matin. Et donc c'est à partir de là qu'ils étaient obligés de fermer à 2h. Normalement c'était obligé de fermer à 2h. Et donc ils avaient coupé la musique à 2h. Et effectivement on a pu sortir à 2h30. Parce que hier, cette nuit, il y a eu les flics devant l'entrée.
D'accord, mais vous êtes bien amusé à la Moleta. Est-ce que vous conseillez aux auditeurs d'aller faire la fête là-bas?
Bien sûr. Les after la Bodega La Muleta.
After la Bodega avec DJ Eric.
Ouais, voilà. Il me semble.
Et puis bon, bah, bonne soirée à tous.
Bah,
Hélène, le dernier mot, le mot de la fin.
Et bah, à demain!